Attention à ceux qui veulent empêcher la révolution d'aller de l'avant. Des têtes peuvent tomber. Discours de Mustapha Kemal devant l'Assemblée constituante en octobre 1923.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Mustapha Kemal est né en 1881 à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, à un moment où l'Empire ottoman est encore maître de ce territoire. Il entre dans l'école d'officiers de Constantinople en 1899 et va faire donc une brillante carrière d'officier. Il se bat en 1915 aux Dardanelles, où il dirige avec beaucoup d'habileté la défense turque contre les assauts des alliés. Il va ensuite se distinguer l'année suivante dans le Caucase contre les armées russes. Et enfin, il est nommé aide de camp du sultan Mehmed VI en septembre 1918. Ainsi, à la fin de la Première Guerre mondiale, Mustapha Kemal est sans doute un des officiers turcs les plus connus de l'armée impériale. Mais c'est la suite qui pose évidemment Kemal dans le cœur de l'histoire de la Turquie. La question qui est importante au sortir de la guerre est finalement quel est le destin de l'Empire ottoman? Comment les Alliés vont traiter le vieil Empire? Quel traité de paix ils vont formuler à son encontre? Or, le traité de Sèvres du 10 août 1920 est particulièrement sévère envers l'Empire ottoman. Non seulement l'Empire perd ses provinces arabes, qui sont confiées sous forme de mandat aux Français avec la Grande Syrie et aux Britanniques avec l'Irak, la Transjordanie et la Palestine, mais il perd également une bonne partie de son territoire anatolien, puisque la région d'Izmir est prise par les Grecs, une république d'Arménie voit le jour au nord-est du pays, et un Kurdistan indépendant est également promis au sud-est de l'Anatolie. Si l'on rajoute à cela l'internationalisation de la zone des détroits et des zones d'influence économique promises entre autres à la France et à l'Italie, nous assistons bien, avec le traité de Sèvres, à une forme de démantèlement de la Turquie. Ce traité de Sèvres est, aux yeux du général Mustapha Kemal, inacceptable. Et il ne peut pas concevoir que la monarchie ottomane ait pu s'abaisser à signer un tel texte. Ceci va avoir des conséquences extrêmement importantes pour l'histoire de la Turquie. Parce que Mustapha Kemal, refusant le traité de Sèvres, va lever le drapeau d'une réaction nationale de la Turquie. Il va d'ailleurs rompre avec la monarchie, puisqu'il est à ses yeux intolérable d'avoir vu l'Empire, le gouvernement impérial accepter le traité de Sèvres, et il va appeler les Turcs à mener la guerre contre les Grecs qui sont à Izmir et rétablissant la Turquie, en tout cas dans son intégralité anatolienne. Cette guerre qui est victorieuse, puisqu'effectivement les Turcs en particulier sont obligés, dans des conditions d'ailleurs extrêmement difficiles, d'évacuer le territoire d'Izmir, et il y aura également énormément de pertes civiles durant ces combats, eh bien, nous aboutissons ainsi au traité de Lausanne, qui est signé le 23 juillet 1923. Ce traité de Lausanne, s'il acte la perte des provinces arabes, que Mustapha Kemal d'ailleurs n'avait pas vraiment l'intention de récupérer, le traité acte également la fin de la présence grecque du côté de Smyrne, le retour d'une souveraineté pleine et entière de la Turquie en Arménie et au Kurdistan. Ainsi, Mustapha Kemal apparaît comme celui qui a sauvé la Turquie, qui l'a sauvé du démantèlement. Aussi va-t-il pouvoir accéder au pouvoir. Il va mettre fin au sultanat. En octobre 1923, Mehmed VI va partir en exil. L'Empire ottoman est définitivement clos et il va donc créer une république de Turquie. Mais il va également prendre une autre décision, puisqu'il va décider de supprimer le poste de calife, c'est-à-dire ce chef spirituel qui était représenté jusque-là par le sultan et dont la fonction est abolie le 3 mars 1924. Il n'y a plus de califat à la tête du monde sunnite musulman. Il va être proclamé comme chef de la République, élu quasiment à l'unanimité par l'Assemblée nationale, et il va instaurer pour la Turquie à la fois un nouveau régime politique basé sur une volonté de réforme, mais aussi une volonté d'un pouvoir autoritaire. Posons-nous la question, est-ce que cette république de Mustafa Kemal a une idéologie officielle ? Y a-t-il une idéologie kémaliste ? À vrai dire, le kémalisme s'est lui-même structuré autour de ce qu'il a appelé les 6 flèches, qui ont été officialisées en 1931, puis qui ont été placées dans les statuts du Parti unique en 1935 et enfin dans la Constitution en 1937. Quelles sont ces 6 flèches, ces 6 principes ? Le nationalisme, le républicanisme, le populisme, l'étatisme, le laïcisme, le révolutionnarisme. Nationalisme, on l'a vu, c'était la volonté de ne pas accepter le traité humiliant qui avait été signé à Sèvres en 1920. Le républicanisme, c'est effectivement la fin de l'Empire ottoman et l'instauration d'une république dont le général Mustafa Kemal est le premier président. Populisme parce que on veut s'appuyer au plus sur le peuple, y compris d'ailleurs dans un système volontiers autoritaire. Étatisme parce que l'État doit jouer dans l'économie et dans la structuration de la société un rôle important. Révolutionnarisme parce qu'effectivement le kémalisme se vit comme une révolution qui a régénéré la vieille Turquie. Et enfin le laïcisme, la capacité de l'État turc de fonder un système laïque. Et c'est sur ce dernier point que je souhaiterais quelque peu insister. D'abord, effectivement, outre l'abolition du califat que j'ai déjà souligné, il faut voir que le gouvernement de Mustafa Kemal a aboli également les tribunaux chariatiques, c'est-à-dire qui s'appuyaient sur la charia, la loi coranique. Abolition également des écoles coraniques et des confréries, alors que les imams, c'est-à-dire les personnages qui animent les mosquées, deviennent des fonctionnaires de l'État, ce qui est un moyen d'ailleurs de les contrôler et éventuellement de leur couper les vivres s'ils ne sont pas assez dans la ligne voulue par le régime. D'autre part, le code civil turc de 1926 interdit la polygamie qui était tolérée par le texte coranique. En effet, dans le verset 3 de la sourate 4, le Coran explique « Épousez 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec chacune d'entre elles, alors une seule. » Mustafa Kemal supprime toute possibilité de polygamie. Et d'ailleurs, seul le mariage civil est reconnu par l'État, et le voile musulman est interdit dans la fonction publique. D'autre part, l'article 2 de la Constitution de 1924, qui proclamait l'islam religion d'État, est aboli le 10 avril 1928. Ainsi, au début des années 1930, il n'y a plus aucune référence religieuse dans le corpus juridique turc. D'autre part, Mustafa Kemal veut occidentaliser la Turquie. Il adopte l'alphabet latin, il adopte le calendrier grégorien le 26 décembre 1927, remplace le fez par le chapeau occidental, c'est le fameux discours du 27 août 1925, dit du chapeau, et qui d'ailleurs coûta la vie à une centaine de Turcs qui refusaient de ne plus porter le fez, en particulier en ville. De même, le dimanche est choisi comme jour de repos à la place du vendredi. Ainsi, il y a une réelle volonté de la part de Mustafa Kemal de combattre l'influence musulmane. À titre personnel, le président de la République était sans doute athée. Et il voyait plutôt dans l'islam, d'ailleurs, un élément de frein à la modernité et à la modernisation de l'Empire ottoman. Il reprochait effectivement à la religion musulmane d'avoir empêché toute grande réforme qui aurait pu éventuellement sauver l'Empire. Aussi, il va également bousculer les données politiques et sociologiques. Le 5 décembre 1934, le droit de vote est accordé aux femmes. Certes, le régime étant autoritaire, ce droit de vote a une portée toute limitée. Mais il est quand même significatif que les femmes aient eu en Turquie un droit de vote alors que les Françaises attendront 10 ans de plus. Vous l'avez compris, cette espèce de laïcité à la turque et, disons-le nettement, une laïcisation qui s'est faite à la hussarde a été une des marques les plus importantes de la Turquie de Mustafa Kemal. Au demeurant, par un amendement à la constitution turque, la République devient officiellement laïque le 5 février 1937. Mustafa Kemal est donc un personnage capital dans la compréhension de la Turquie contemporaine. Il va mourir en novembre 1958, sans doute d'ailleurs parce qu'il a beaucoup abusé de la vie, il était un buveur assez important et il semble bien qu'il soit mort d'une cirrhose du foie. Mais ce personnage, qui a été quelqu'un d'extrêmement populaire, qui a un mausolée à Ankara que les Turcs visitent aujourd'hui, doit éventuellement se poser la question sur la Turquie actuelle, parce que effectivement, le régime du président Erdogan est en train de tourner volontairement le dos à cette laïcisation turque au profit d'une nouvelle islamisation de la société.